m'appelle Pierre Craig. Bienvenue au balado « Les petits caractères ». Je suis journaliste. J'ai animé durant 13 ans l'émission « La facture » à Radio-Canada. Alors, la consommation, j'en connais un petit bout là-dessus. Option consommateur, c'est un organisme à but non lucratif qui vous informe et puis aussi qui défend vos droits depuis 37 ans. Vous imaginez bien que les avocats d'Option consommateur, eux aussi, en connaissent un bon bout. Ensemble, on a eu l'idée de vous présenter deux fois par mois ce balado, un balado qui touche votre vie de tous les jours. Que ce soit, par exemple, un voyage annulé, cette saison, par la compagnie mais pas encore remboursé, un achat en ligne toujours pas livré, comment pouvez-vous défendre vos droits? Avec les avocats d'Option consommateur, je vais décortiquer tout ça pour que les petits caractères, vous savez, là, ceux qu'on dit jamais, moi non plus d'ailleurs, vous causent le moins de soucis possible. Dans notre dernier balado, on vous a parlé de la surchauffe immobilière. On vous a mis en garde contre des erreurs graves que commettent plusieurs acheteurs, entre autres laisser tomber l'inspection préachat et puis aussi laisser tomber la garantie légale. Mais avant de pouvoir acheter une maison, bien, il faut obtenir du crédit, c'est-à-dire un prêt hypothécaire d'une institution financière. Et pour nous l'accorder ou pas, ce prêt-là, bien, les banques, les caisses vont entre autres vérifier notre dossier de crédit et notre pointage de crédit. Comme dirait l'autre, qu'est-ce que ça mange en hiver, un dossier de crédit et un pointage de crédit. Sans compter que la loi 53 vient d'entrer en vigueur, une loi qui vise à encadrer les agences de crédit qui, elles, produisent et le dossier de crédit et le pointage de crédit. On va démêler tout ça pour vous avec l'avocat Alexandre Plourde d'Option consommateur.
Bonjour Alexandre.
Bonjour Pierre, comment ça va?
Ah ben ça va comme un gars qui va parler de crédit aujourd'hui. C'est un sujet, je pense que c'est quasiment un mal nécessaire. Puis on va parler du dossier de crédit. Alors qu'est-ce que c'est Alexandre un dossier de crédit?
Ben, en gros, un dossier de crédit, c'est un fichier qui contient mes antécédents de crédit. Donc c'est un dossier dans lequel il y a la liste de tous les comptes de crédit que j'ai, tous les prêts que j'ai auprès des institutions financières. Donc tout ce qui est carte de crédit, marge de crédit. Il peut aussi avoir d'autres types de comptes qui sont dans ce fichier-là. Donc, par exemple, des comptes de télécommunications, facture d'Internet, téléphonie cellulaire. Puis ce que ça fait, en fait, le dossier de crédit, c'est que ça collige toutes mes habitudes de paiement. Donc, est-ce que je paye à temps ces comptes-là? Est-ce que j'ai des retards de paiement? Est-ce que j'ai des créances qui sont en recouvrement? Est-ce qu'il y a une agence de recouvrement qui me téléphone, qui me demande de l'argent? Est-ce que j'ai fait faillite? Est-ce que j'ai fait une proposition de consommateur? Est-ce qu'il y a même des jugements contre moi qui me demandent de l'argent? Puis aussi, on évalue mon niveau d'endettement. Donc, est-ce que je suis dans le rouge ou est-ce que ça va assez bien, mon utilisation du crédit?
Tous ces renseignements dont tu me parles, Alexandre, là, bon, c'est des entreprises privées. Je pense que c'est important de souligner. Ce n'est pas gouvernemental. Qu'est-ce que c'est comme entreprise? Bon, on les connaît. Je pense qu'on commence à les connaître. Equifax, TransUnion. Donc, qu'est-ce que c'est ces entreprises-là? Des moyennes entreprises, grosses entreprises, c'est quoi?
Ben, ce sont des multinationales. Essentiellement, au Canada, on en a deux. On a Equifax et TransUnion. Elles font en faire un peu partout dans le monde, ces entreprises-là. C'est des activités qui sont très profitables. Il y a eu quand même certains problèmes là, qui ont été liés avec ces entreprises-là. Nous, chez Option consommateur, depuis des années, on déplore que toutes sortes de difficultés avec ces entreprises-là. On pourra en parler plus en détail. Mais une des difficultés qui vient du fait que ce sont des multinationales, souvent, ça a été le service à la clientèle qui peut être assez complexe parfois, souvent que les gens téléphonent ces entreprises-là et finalement se font répondre en anglais. On a eu quand même pas mal de plaintes chez Option consommateur à cet égard-là. Equifax s'est fait connaître ces dernières années aussi pour un très gros problème qui est survenu chez eux, c'est le bris de sécurité de 148 millions de dossiers de crédit aux États-Unis, dont certains au Canada aussi. Donc, c'est des entreprises qui sont quand même critiquables.
OK. Puis leur argent, ces multinationales-là, elles le font comment?
Les clients des institutions financières, les clients des agences de crédit, ce sont les institutions financières à la base.
Donc, on vend les informations de crédit à des institutions financières.
Les institutions financières, ce sont les premières bénéficiaires de ces informations-là et ce sont les premières à payer, évidemment, pour ce type de service-là. Au fil des années, là, ce qu'ont fait les agences de crédit, comme toute bonne multinationale, c'est qu'ils ont essayé de monétiser ces renseignements-là. Ils ont essayé de faire plus d'argent avec nos renseignements personnels de plusieurs façons. Ils ont élargi leur clientèle, donc ça peut être les assureurs, les locataires de logements, ça peut être même des employeurs qui utilisent ces renseignements-là, qui vont payer, évidemment, pour utiliser ces services-là, mais ça peut être aussi les consommateurs maintenant. Donc, ils offrent aussi toutes sortes de forfaits là, à 20 $ par mois, par exemple, qui te font payer pour avoir une surveillance de crédit, ce genre de choses-là.
Ça commence quasiment à être choquant. C'est sur le bord d'être choquant ce que tu me racontes là. Là, tu es en train de me dire, parce que tantôt, tu parlais de mon compte de télécommunication. Là, tu parles du logement, tu parles de toutes sortes de choses. Tu sais, dans le fond, la question que j'ai en dedans de moi, là, puis qui a envie de sortir comme un volcan, c'est coudonc, de quel droit ces gens-là, TransUnion, Equifax, de quel droit recueillent-ils toutes ces informations personnelles-là sur moi?
Bien, ils ont le droit de les recueillir, les données qu'elles recueillent. En fait, ça n'est théoriquement pas fait à ton insu. Quand tu as ouvert un compte de carte de crédit, quand tu es allé t'ouvrir un compte à la banque, quand tu passes un contrat d'assurance, il y a quelque part dans le contrat une petite clause qui dit que l'entreprise, elle peut partager tes renseignements personnels aux agences de crédit, qu'elle peut consulter ton dossier de crédit. Donc, c'est déjà écrit quelque part dans les petits caractères qu'elle a le droit de le faire. C'est sûr que...
Donc, c'est moi, Alexandre, qui donne la permission à ces gens-là d'aller chercher, OK.
Théoriquement, c'est toi, Pierre, qui leur a donné la permission, mais je suis d'accord avec toi que le choix, il est peut-être un peu fictif pour les consommateurs, parce que si je refuse, bien évidemment, ma carte de crédit, il y a bien des chances que je ne l'aie pas. Les assureurs vont nous dire, bien, vous avez le choix qu'on utilise ou non votre dossier de crédit. Ce qu'on constate, c'est qu'un assureur auquel tu refuses de donner accès à tes renseignements personnels qui sont dans ton dossier de crédit, ben il peut te charger pas mal plus cher pour ta prime d'assurance que si tu leur as donné accès à ton dossier de crédit. Donc, c'est un choix qui est, disons que ça prend les moyens de pouvoir faire ce choix-là. Ça prend de l'argent parfois pour pouvoir faire ce choix-là. Ce n'est pas à la portée de tout le monde.
C'est pour ça, Alexandre, que notre balado s'appelle les petits caractères, les petits maudits caractères. Là. C'est là-dedans que moi, je donne la permission à ces gens-là d'aller chercher le dossier, les renseignements de crédit sur moi. Et c'est les mêmes petits maudits caractères, je m'excuse de l'expression, que je ne lis pas, moi non plus, et que personne ne lit, là, finalement. Est-ce que c'est une nécessité? C'est quoi? Parce que c'est monétisé, comme tu dis. Les renseignements sont monétisés. Est-ce que c'est une bonne, une mauvaise chose, un mal nécessaire, ces histoires-là de dossiers de crédit?
Ben, c'est un mal nécessaire, là, le système des agences de crédit. Ça pourrait être fait autrement, mais on a besoin d'un système de ce type-là là, dans l'économie moderne. Pourquoi? Parce que les créanciers ne connaissent pas nos habitudes de paiement. Si toi, Pierre, tu te présentes à la banque, ben le banquier ne te connaît pas. Ben, en fait, oui, toi, il te connaît parce que t'es une vedette, tu as animé pendant 13 ans la facture. Mais je veux dire, si moi ou quelqu'un d'autre d'ordinaire se présente, à la banque, ben, ils ne nous connaissent pas. Ils ne savent pas c'est quoi nos antécédents de crédit. C'est pas comme à l'époque de Séraphin Poudrier, hein, à Saint-Adèle, où ce que Séraphin connaissait tout le monde dans le village, connaissait la situation patrimoniale de chaque personne, connaissait ses antécédents de crédit, puis pouvait leur prêter en conséquence de cette connaissance-là. Maintenant, en société moderne, les institutions financières ont besoin de savoir c'est quoi le profil d'une personne, c'est quoi le risque auquel elle s'expose en lui octroyant du crédit. Donc, il y a une logique à ça. Il y a une logique à l'existence du dossier de crédit. Cependant, le problème, un des problèmes par rapport à ça, c'est la place que ça s'est mis à prendre dans nos vies. C'est pas utilisé seulement dans matière d'octroi de crédit, mais en matière de logement, en matière d'assurance, même en matière d'emploi. Donc, ça peut avoir des conséquences très importantes, un mauvais dossier de crédit. Là.
Logement, tu dis. Parce que tu avais évoqué ça, là, puis je t'ai peut-être passé à côté. Qu'est-ce que tu veux? Comment ça peut être utilisé en matière de logement puis d'emploi? C'est quoi le rapport?
Bien, il y a beaucoup de propriétaires au Québec et ailleurs qui consultent le dossier de crédit d'une personne avant de lui octroyer le logement. Puis c'est un peu la même logique dans la matière d'octroi du crédit, c'est-à-dire qu'on part de la base que quelqu'un qui aurait un mauvais dossier de crédit, peut-être qu'il présente plus un risque comme locataire, comme une personne qui pourrait potentiellement ne pas payer son loyer. Le lien n'est pas nécessairement si évident que ça parce qu'une personne peut avoir payé son loyer toute sa vie, peut avoir priorisé cette créance-là dans sa vie, puis avoir manqué une coupe de paiement sur sa carte de crédit, se retrouver avec un mauvais dossier de crédit, mais ça ne veut pas dire que ça va être un mauvais locataire, là.
Mon historique de paiement de loyer n'est pas dans mon dossier de crédit, mais malgré tout, mon dossier de crédit peut influencer un locataire éventuel pour qu'il me
Oui.
dise non, mais désolé, je ne vous loue pas mon appartement.
Exactement. Donc, on fait une corrélation qui est peut-être mal fondée dans bien des cas,
En
puis ça peut
matière
avoir des
d'emploi,
impacts.
excuse-moi, en matière d'emploi, c'est parce que voyons donc, je la catch pas, là. En matière d'emploi, qu'est-ce qui se passe?
Ben, en matière d'emploi, c'est encore la même idée, c'est-à-dire on fait une espèce de corrélation. Donc, comme en matière d'assurance, on se dit, ben, quelqu'un qui a un mauvais dossier de crédit, c'est quelqu'un qui représente un risque qui est plus dangereux, quelqu'un qui est moins recommandable. Bon, et peut-être, là, j'imagine que la crainte des employeurs, c'est que quelqu'un qui a un mauvais dossier de crédit puisse, par exemple, détourner de l'argent, faire de la fraude et tout ça. Donc, un employeur pourrait se dire, ben, je vais engager un caissier, une caissière dans mon commerce. J'ai peur qu'il me vole de l'argent. Tout d'un coup, et si un mauvais dossier de crédit, c'est quelqu'un d'endetté, ben, il va peut-être prendre de l'argent dans la caisse pour payer ses dettes. Bon, c'est peut-être le genre de réflexion qu'un employeur pourrait faire. Généralement, on voit plus ça aussi, l'emploi du dossier de crédit, là, peut-être plus pour des cadres aussi, des postes plus élevés ou des gens qui vont peut-être avoir le nez dans l'argent.
J'ai juste envie de dire au secours, OK, mais bon, parlons quand même du pointage de crédit parce que je pense que tout le monde a ça dans la tête. Tout le monde sait qu'il y a un pointage de crédit, là. En quelques mots, là, ça ressemble à quoi le pointage de crédit?
Pointage de crédit, c'est un nombre de 3 chiffres qui est généré à partir des données qui sont dans mon dossier de crédit. Et là, je reprends l'expression de ma collègue Sylvie, là. Le pointage de crédit, c'est comme la recette du poulet frit. Alors, on a un peu une vague idée de qu'est-ce qu'on met dans la recette, mais on ne sait pas exactement c'est quoi la recette. La recette, elle reste secrète. Ce qu'on sait, c'est que ce qui compte le plus dans la fixation d'un pointage de crédit d'une personne, c'est les antécédents de crédit, c'est le fait qu'une personne paie ou non à temps ses comptes de crédit.
Non seulement faut-il que je paye, puis peut-être pas payer juste le minimum de ma carte de crédit, je présume que c'est mieux si je paye mon solde mensuel, mais il faut que j'utilise du crédit.
Oui, ben ça prend une certaine utilisation du crédit pour que le dossier de crédit soit ouvert. Ça, c'est un problème qu'on voit, par exemple, avec des nouveaux arrivants au pays, là. Souvent, ces gens-là peuvent ne pas avoir du tout de dossier de crédit, ce qui leur ferme beaucoup de portes parce que, justement, ils n'ont pas d'antécédents de crédit. Cependant, avoir des antécédents de crédit, ça ne veut pas dire non plus avoir 25 cartes de crédit avec des paiements à faire tous les mois, là. Ça peut juste vouloir dire avoir une carte de crédit depuis un certain temps. Puis ce qu'il y a de particulier aussi, c'est que une personne peut être très endettée, mais quand même avoir un assez bon score de crédit.
Comment ça?
Pourquoi? Parce qu'elle fait ses paiements à temps. Si la personne fait toujours ses paiements minimum à temps, ben, elle pourrait avoir quand même un assez bon score de crédit, même si elle a un niveau d'endettement élevé. Donc, c'est un drôle de calcul, le pointage de crédit, qui ne tient pas toujours compte de l'ensemble de la situation patrimoniale de quelqu'un.
Mettons que je vais sur le site de TransUnion d'Equifax pour vérifier, et on peut le faire gratuitement. Il ne faut pas se fier sur le 20$ qu'ils nous offrent au début de la page web. On a juste à descendre un petit peu plus bas. Je peux vérifier mon dossier de crédit. Est-ce que je peux contester mon dossier de crédit, faire des vérifications?
Oui, on peut contester notre dossier de crédit, mais ça peut être un chemin de croix contester son dossier de crédit. Ça peut être assez complexe à faire. Si, mettons, on va prendre un scénario, Pierre. Imaginons que un commerçant a fait une inscription dans mon dossier de crédit que je ne suis pas d'accord. Il a dit que je devais de l'argent, puis je ne suis pas d'accord avec ça. J'appelle Equifax, je leur demande d'enlever cette créance-là dans mon dossier de crédit parce que je leur dis, ben, le commerçant, il a mis une créance que je ne suis pas d'accord avec, s'il vous plaît, enlevez-la. Ce que va faire Equifax, c'est qu'ils vont appeler le commerçant. Le commerçant va leur dire, ben non, il me doit cet argent-là, puis ils vont laisser l'inscription au dossier de crédit. Donc, c'est un méchant problème.
Ils vont pas aller chercher ma version. Si le commerçant, c'est une espèce de chantage, ça, hein?
Oui,
Puis
exactement.
tu me disais à un moment donné, je me rappelle bien, tu m'as déjà dit, Alexandre, que certains types, on nommera pas là nécessairement, mais certains types d'entreprises sont très bonnes dans ce genre de chantage-là. Si tu ne me payes pas la dette, même si tu me dis que tu ne me la dois pas, ben je vais l'inscrire dans ton dossier de crédit.
Oui. Ça, c'est un problème. Il y a certains types de commerçants ou ça peut être aussi des agences de recouvrement qui vont faire ce genre de choses-là, qui vont dire aux consommateurs qu'ils ne les payent pas, on ne te poursuivra pas devant les tribunaux, Du moins, ils vont chercher à éviter de le poursuivre devant les tribunaux. Ils vont simplement leur dire, ben, si tu ne payes pas l'argent que moi, je pense que tu me dois, ben, je vais faire une inscription négative à ton dossier de crédit. Puis là, le consommateur, il est vraiment mal pris à ce moment-là parce que les agences de crédit, comme je l'ai dit, ils prêtent foi à ce que dit le commerçant. Donc, si le commerçant leur dit qu'il doit l'argent, ben, l'agence de crédit n'enlèvera pas l'inscription, là.
Bon, là, je vais m'adresser à l'avocat, mais je m'adresse toujours à l'avocat, mais parce que, entre toi et moi, c'est Alexandre et Pierre. Mais écoute, là, c'est parce que ce que tu es en train de me dire, c'est que c'est comme une cour, ça. Une cour dans laquelle, moi, je n'ai aucune possibilité de défendre mon point de vue. Là, ça court-circuite un petit peu la justice officielle, non?
Exactement. Si je veux faire corriger ce qui est inscrit dans mon dossier de crédit, ça risque d'être assez compliqué. Pourquoi? Parce qu'il y a deux organisations, il y a deux chemins que je peux emprunter. Il y a la Commission d'accès à l'information, qui est l'organisme qui a le pouvoir de rectifier le contenu de mon dossier de crédit. Mais la Commission d'accès à l'information, elle n'a pas le pouvoir de trancher sur le fait que le commerçant, que je dois cet argent-là au commerçant ou non. Ça, ce sont les tribunaux qui ont ce pouvoir-là. Donc, si je m'adresse à la Commission d'accès à l'information, je leur demande, s'il vous plaît, pourriez-vous ordonner la rectification de mon dossier de crédit? Ils vont dire, ben moi, je ne peux pas me prononcer sur la validité de la créance. Il faut que tu ailles voir les tribunaux. Donc là, je vais voir les tribunaux. Les tribunaux vont décider sur la validité de la créance. Mais le tribunal, il n'a pas le pouvoir d'exiger la rectification du dossier de crédit. Donc, si j'ai obtenu mon jugement, il faut que je retourne devant la commission d'accès à l'information si le dossier de crédit n'a pas été rectifié. Je demande à la commission d'accès à l'information de faire modifier mon dossier de crédit. Donc, elle a pu le faire parce que là, on a un jugement qui dit que la créance n'est pas due. Et puis là, ensuite, si après toutes ces démarches-là qui peuvent avoir pris des années, là, je me dis, écoute, j'ai subi un méchant dommage suite à ça. Là, j'ai payé plus cher mes assurances, j'ai passé du temps là-dessus, j'ai pas pu renouveler mon hypothèque, j'ai subi un dommage, je veux poursuivre les agences de crédit, je veux poursuivre le commerçant pour les dommages que j'ai subis, mais il faut que je retourne devant les tribunaux parce que la commission d'accès à l'information n'a pas le pouvoir d'ordonner ça.
Ça n'a pas de bon sens. Puis si jamais toi, comme avocat, tu me conseilles ça, je vais te virer bien raide. est-ce que tu connais une seule personne qui a pris ce chemin immensément compliqué et semé d'embûches?
Je n'ai pas suivi le cas d'une personne qui aurait suivi tout ce chemin-là. Ce qu'on a vu, c'est des décisions par-ci, par-là, là, qui se prononcent sur différents aspects.
Y a-t-il un chemin moins compliqué que celui-là pour arriver au même résultat?
C'est pas nécessairement un chemin qui est moins compliqué, là, mais une personne qui se fait réclamer par un commerçant une somme et qui se fait menacer de l'inscrire à son dossier de crédit peut faire un paiement sous proteste, c'est-à-dire je paye la somme en disant au commerçant, ben je ne crois pas te devoir cet argent-là. Puis à ce moment-là, ben ça va être à moi de poursuivre le commerçant par la suite pour y réclamer cet argent-là. L'avantage de ça, c'est que je n'ai pas d'inscription négative à mon dossier de crédit parce que j'ai fait le paiement. Désavantage, c'est que c'est moi qu'il faut qu'il court après mon argent par la suite. Là.
De façon générale, là, est-ce que, je ne sais pas, moi, quelqu'un a regardé ça pour se demander, bon, mais y a-t-il un pourcentage quelconque d'erreurs dans les dossiers de crédit de l'ensemble des gens?
Oui, il y a effectivement pas mal d'erreurs dans les dossiers de crédit. On n'a pas tellement de données là-dessus, mais les données qu'on a sont quand même fort inquiétantes. Aux États-Unis, la Federal Trade Commission a fait des études là-dessus et arrive à la conclusion que quelque chose comme le quart des dossiers de crédit pourrait contenir des erreurs et que 5% des dossiers de crédit contiennent des erreurs qui sont d'une importance assez grande là, qu'elle pourrait avoir un impact négatif sur la cote de crédit d'une personne, sur le score de crédit d'une personne. Donc, c'est assez important. Au Canada, on a des études aussi. Par exemple, il y a un organisme d'Ottawa de protection du consommateur là, qui a fait une étude qui arrive à environ le quart des dossiers de crédit qui pourraient avoir des erreurs. Donc, on sait qu'il y a pas mal de dossiers de crédit qui ont des erreurs. Puis malheureusement, Ce qu'on en sait, c'est que c'est vraiment la pointe de l'iceberg. On ne connaît pas l'ampleur du phénomène des erreurs au dossier de crédit. Puis il y aurait vraiment besoin là, de faire de plus d'études là-dessus pour vraiment connaître la difficulté. Mais oui, il y a beaucoup d'erreurs dans ces dossiers de crédit-là. Puis c'est vraiment dommage parce que ça a un impact considérable dans plein d'aspects de notre vie en plus.
Je suis Puis je pense que vous autres, chez Options consommateurs, avez au moins une demande très, très formelle. Là. Tu sais, on se parle d'enquête de dossier de crédit. Je pense que vous
demandez
ça.
Il y a eu le projet de loi 53 récemment qui s'attaquait aux agences de crédit. Bon, qui contenait quelques dispositions d'intérêt pour les consommateurs, mais une chose qu'on aurait aimé que le législateur fasse, c'est la même chose qui a été faite aux États-Unis il y a quelques années, c'est-à-dire une enquête québécoise sur la valeur des dossiers de crédit, la validité des informations qui sont dans le dossier de crédit, pour avoir l'heure juste, pour avoir un portrait juste là, okay. Sur cette information-là.
Tu parles de la loi 53 qui a été adoptée, écoute, je ne sais pas il y a combien de temps, mais c'est très récent quand même. Là. Bon, ça donne quoi la loi 53? Est-ce que ça me protège vraiment plus que j'étais protégé avant sa mise en vigueur?
Oui, ben ça nous protège plus. Ça s'attaque à certaines difficultés qui étaient vécues par les consommateurs là, face aux agences de crédit. Il faut comprendre que c'est un projet de loi qui a été adopté là, dans la foulée de l'affaire Desjardins, où ce que, bon, l'identité de 4 millions, même plus, de Québécois là, a été usurpée. Donc, la volonté du gouvernement, c'était vraiment de mieux protéger les Québécois contre la fraude. Et les mesures qui sont dans ce projet de loi-là, ça vise essentiellement la protection des gens, des consommateurs contre la fraude. Je dirais que la mesure la plus intéressante qu'il y a dans ce projet de loi-là, c'est ce qu'on appelle le gel de sécurité. Le gel de sécurité, c'est un dispositif qui permet à un consommateur de verrouiller son dossier de crédit. Donc, si il y a un fraudeur qui se présente avec mon identité, donc si je me présente à la Banque nationale en essayant de me faire passer pour Pierre Craig, puis j'ai ton numéro d'assurance sociale, puis toutes les informations nécessaires là, pour demander une carte de crédit en ton nom, bien, lorsque je vais me présenter à la banque, elle va faire une vérification au dossier de crédit de Pierre Craig, mais si tu as gelé ton dossier de crédit, bien, ça va simplement dire que le dossier de crédit est bloqué, donc l'institution financière n'octroiera pas le crédit. Donc, ça, c'est la mesure, je dirais, qui est la plus intéressante.
C'est une grosse protection, mais je ne suis pas sûr qu'elle soit en vigueur maintenant, hein, si j'ai bien lu mes articles de journaux, là.
Ce n'est toujours pas en vigueur. On ne sait pas exactement quand le gouvernement souhaite la mettre en vigueur. Puis c'est dommage parce que c'est ce qui avait le plus intéressant, ce projet de loi-là. La motivation du gouvernement à mettre un délai avant l'entrée en vigueur, c'est de donner une chance à nos pauvres agences de crédit là, de pouvoir mettre en place ce système-là. Ça semble très compliqué, même si ça existe déjà aux États-Unis. Donc, ils ont déjà un système informatique aux États-Unis qui leur permettrait de le faire. Semble-t-il que c'est compliqué à mettre en œuvre. Puis, il y a aussi un autre aspect par rapport au gel de crédit, c'est que malheureusement, ça va être payant. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir exiger des frais dits raisonnables, mais je n'ai aucune idée combien c'est d'argent raisonnable, pour pouvoir utiliser le gel de crédit, ce qui est évidemment inacceptable à mon avis.
Il y a quelqu'un que je ne connais pas qui fout le trouble dans mon dossier de crédit ou dans mon crédit en général, et là, c'est sur mes épaules à moi que repose l'obligation de payer pour essayer de réparer ça.
Oui, effectivement. Donc, tu n'es pas responsable du bris de sécurité qui est survenu. Tu n'es pas responsable du vol d'identité. Tu n'as rien à voir là-dedans, mais si tu veux te protéger, ben c'est toi qui payes.
Bon. Écoute, il y a d'autres choses dans la loi 53. Il y a ce qu'on appelle l'alerte de sécurité. Il y a aussi la note explicative. Puis j'ai lu aussi un encadrement de l'autorité des marchés financiers. Peux-tu nous résumer ça un petit peu, Alexandre?
Oui, ben il y a d'autres mesures. Il y a certaines de ces choses-là qui existent déjà. Effectivement, là, tu mentionnais l'alerte de sécurité. Donc, l'alerte de sécurité, ça ressemble au gel de sécurité, mais c'est simplement une mention qu'on peut mettre à son dossier de crédit qui demande aux gens qui consultent mon dossier de crédit de faire une meilleure vérification de mon identité. Ça existe déjà, par contre, donc c'est rien de nouveau. La note explicative, c'est la possibilité d'émettre certains commentaires dans mon dossier de crédit là, pour expliquer une créance. Ou pour expliquer que je conteste une créance. Le problème avec la note explicative, c'est que les commerçants ne sont pas tenus d'en tenir compte. Ça ne change rien au calcul du pointage de crédit. Donc, ce n'est pas nécessairement utile. C'est un droit qui existe plus ou moins déjà de toute façon dans la loi. Nouveauté intéressante pour les consommateurs par le projet de loi 53, c'est l'accès gratuit à son dossier de crédit par Internet et aussi au pointage de crédit. Donc, traditionnellement...
L'encadrement de l'autorité des marchés financiers, là, c'est intéressant, ça, d'après toi?
Oui, ça peut être intéressant. C'est un encadrement qui est très large, là. Donc, ce qui se passe maintenant, c'est que l'autorité des marchés financiers peut surveiller ce qu'on appelle les pratiques commerciales des agences de crédit. Donc, c'est très large. Ça leur donne l'occasion là, de regarder un peu là, dans l'ensemble qu'est-ce que font les agences de crédit. Ils ont un bon service à la clientèle. Ça leur répond bien aux consommateurs. Donc, oui, ça peut être intéressant. Puis, ce qui est intéressant aussi pour les consommateurs, c'est qu'il y a une possibilité maintenant d'aller en médiation avec les agences de crédit puis avec d'autres commerçants avec lesquels je pourrais avoir un problème
dans le cadre d'une inscription. Avec l'AMF, avec l'autorité des marchés financiers, ça?
Oui, c'est ça. Piloté par l'autorité des marchés financiers, là, la médiation. Et ce que ça pourrait permettre, en fait, c'est des processus peut-être beaucoup plus rapides pour les consommateurs là, pour régler leur litige.
Donc, si je conteste, là, parce qu'on revenait tantôt dans tes propos au chantage que certains commerçants peuvent faire en disant « Ah, tu me dois de l'argent. » Moi, je dis « Ben non, je ne te le dois pas. » Paf, il l'inscrit dans mon dossier de crédit. Donc, mettons, dans un cas comme celui-là, je peux demander à l'autorité des marchés financiers de m'aider en matière de médiation auprès de l'agence de crédit?
Je pourrais potentiellement m'adresser là, à l'autorité des marchés financiers pour demander l'aide, de la médiation. Oui, effectivement, là, ça pourrait être le genre de choses que je pourrais
Alexandre,
faire.
En terminant, là, je sais que c'est des dossiers qui te sont très chers, c'est des dossiers qui te passionnent, la question du crédit, tu t'occupes beaucoup de ça. Donc, j'ai envie de te demander, bon, il y a la loi 53 là, qui voulait venir encadrer tout ça. Est-ce que tu es satisfait? Est-ce que c'est un grand pas? Est-ce que c'est un changement de culture, qu'est-ce que c'est pour toi la loi 53?
Ben c'est certainement pas un changement de culture. Là. On s'est attaqué à des difficultés, surtout en matière de fraude, en matière de vol d'identité, mais on n'a pas remis en question là, le système des agences de crédit, certainement pas. Puis une des grandes difficultés, c'est la place qu'occupe le dossier de crédit dans nos vies, en matière de logement, en matière d'assurance, en matière d'emploi. Okay. Ça, on ne s'est pas du tout attaqué à ça. Donc, le dossier de crédit continue à occuper une place très importante. Puis ce qui est dommage, c'est qu'il y a d'autres pays ailleurs dans le monde qui ont pourtant encadré ce genre d'utilisation-là. L'Ontario, même le Terre-Neuve et le Labrador limitent l'utilisation du dossier de crédit en matière d'assurance. On n'a rien de tout ça au Québec. Okay. Il y a des États américains aussi qui ont ce genre d'encadrement-là. On n'a rien de tout ça au Québec. Donc, oui, il y a certaines mesures qui peuvent être intéressantes pour les consommateurs, là, mais on aurait pu aller beaucoup plus loin là, dans l'encadrement de ces entreprises.
Je vais dire une chose plate en terminant. C'est quelque chose que tu as dit, mais écoute, c'est quelque chose qui m'a tellement frappé quand tu m'avais dit ça dans une de nos conversations. Tu m'avais dit, on parlait des agences de crédit, ça coûte cher être pauvre.
Oui, parce que le dossier de crédit il a des conséquences dans plein de sphères de ta vie. Donc, si tu as des difficultés financières, si tu te retrouves dans une situation où tu as de la difficulté à faire tes paiements sur ta carte de crédit, ça se voit pas juste être plus compliqué pour toi d'obtenir du crédit ou d'obtenir du crédit à un coût qui est raisonnable, mais en plus, avoir de la misère à trouver un logement. Tu vas payer plus cher pour des assurances. Tu pourrais même avoir de la difficulté à trouver un emploi. Puis tout ça est très, très peu encadré, à mon avis. Donc, oui, si tu es pauvre, ben ça risque de coûter encore plus cher. Ça risque encore de te pénaliser encore davantage.
Puis, bon, ben c'est un petit peu un rendez-vous manqué avec un changement qui aurait pu être plus important, finalement, la loi 53.
Rendez-vous manqué, il y a aussi le projet de loi 64 qui est sur le feu actuellement, qui s'attaque de manière plus générale à la protection de la vie privée. Malheureusement, dans ce projet de loi-là, le gouvernement aurait pu encadrer davantage les agences de crédit. Il ne l'a pas fait. Ça ne s'attaque aucunement aux agences de crédit, donc on est un peu déçus à cet égard-là.
Merci beaucoup, Alexandre.
Merci à toi, Pierre.
Consulter votre dossier de crédit, c'est facile et c'est gratuit. Je l'ai fait moi-même chez TransUnion et Equifax. Ça m'a pris quelques minutes seulement. Et il faut que je vous dise que j'ai découvert dans mon dossier des choses dont j'avais complètement oublié l'existence. Consulter mes dossiers, ça m'a aussi permis d'apprendre qu'une majorité de personnes au pays, 86 % ont un excellent, un très bon ou un bon pointage de crédit. Mais ça veut aussi dire que près de 15 % des citoyens se retrouvent avec un pointage de crédit mauvais ou alors raisonnable. Ça fait quand même beaucoup de monde. Alors, sachant que des erreurs peuvent se glisser dans le cadre des dossiers, ben, n'hésitez pas à vérifier le vôtre. Je vais vous remercier d'être à l'écoute de notre balado qui va prendre une pause d'un mois. D'ici là, suivez Options Consommateurs sur Facebook ou Twitter. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre balado. Allez, on se retrouve le 8 avril.